Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous recevons aujourd'hui Caro Boucher. Caro Boucher est artiste. Nous la rencontrons au sein de son exposition Hyperloop, qu'elle a conçue pour Aperto, un espace autogéré par des artistes, un artist-run space qui se trouve dans le quartier Figuerolles à Montpellier. Caro Boucher a conçu ici une exposition évolutive. Elle change au fil des jours. Les objets qui s'y trouvent se transforment pour apparaître tantôt en tant que sculpture, photographie, vidéo ou encore simplement en tant que souvenir, comme une sorte de déjà-vu, nous rappelant vaguement ce que nous avons vu auparavant, mais différemment. Dans ce contexte, la figure de l'animal est primordiale. C'est en imitant les postures des animaux que l'artiste nous propose ici une lecture de ses œuvres, à chaque fois renouvelée, réactivée. D'ailleurs, à propos de la lecture, Caro Boucher nous dit « Lire a beaucoup compté dans mon histoire personnelle avant même que j'en aie pris conscience et que je vois à quel point ça s'est manifesté sous des formes diverses dans mon travail. » Apprendre à lire le comportement des animaux que j'ai côtoyés tous les jours ainsi que leurs caractéristiques physiques et leur présence dans un environnement spécifique a été une source d'observation fondamentale et nombre de mes sculptures en relèvent directement. J'ai commencé par travailler avec les animaux à leur contact et j'ai tenté d'en traduire des allures ou des comportements, des attitudes et des postures dans des formes en volume en introduisant un rapport d'adaptation physique ou mimétique. Ça prenait la forme de sculptures et d'installations, sortes de milieux et d'environnements plus ou moins hauts qui travaillaient comme des paysages de nature très diverses en invitant à différents modes d'observation. Certains mettaient à distance, d'autres de taille réduite demandaient à se rapprocher pour y voir ou s'y installer, voire s'y coucher. D'autres, mobiles ou portables, pouvaient être déplacés. Certains encore invitaient à parcourir l'espace et à revenir sur ses pas ou à observer debout, fabriquant par la distance une vue aérienne. Mais plongeons maintenant dans Hyperloop, accompagné de la parole de Caro Boucher.
Grammaire fantôme.
Est-ce que c'est l'installation que j'ai vue déjà au Jardin des Plantes?
Oui, et hier, ça n'était pas celui-là. je vais te montrer tout parce que j'ai fait des photos aussi.
Tous les jours, j'ai commencé par montrer certaines pièces. J'ai même préparé, en fait, j'ai préparé l'exposition avant, ça fait plusieurs semaines que je suis venue tous les jours depuis l'été, donc pas tous les jours, mais enfin, j'y suis venue tout l'été pour regarder. C'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est un lieu très particulier, qui est en même temps très organique et en même temps avec des volumes très simples et avec des hauteurs très particulières aussi. Tout part de cette salle centrale. C'est pas un grand lieu avec des déambulations, mais on arrive par une entrée qui nous ouvre sur un espace qu'on voit presque global dans sa globalité. On aperçoit en face de nous, en arrivant aussi, la mezzanine sans savoir exactement ce qui s'y trouve, mais on a une idée de son volume et de sa profondeur. Et à la droite, on a aussi un aperçu tout de suite d'une petite salle qui est dévoilé par une porte. Voilà. Donc les volumes sont donnés absolument, enfin très simplement au départ, mais ils ont d'abord ils ont des particularités physiques. Les simèzes, par exemple, c'est des simèzes qui s'arrêtent déjà devant les vrais murs. Donc ils ont rajouté des simèzes très, très rectilignes, en blanche, devant les murs existants qui sont très anciens. D'après ce que Alain et Mam m'ont raconté, c'était un ancien passage. Donc il y a un côté déjà architectural à la base qui est vraiment... C'est des hauteurs qui sont plus grandes que des appartements. Hein. Donc le volume lui-même, le volume initial, on le voit encore puisqu'il est apparent. Les simèzes s'arrêtent bien avant le plafond et laissent découvrir les anciennes poutres, hein, des poutres très anciennes, très grosses, qui ont dû être qui sont montées à la sueur des hommes. Et ce qui est drôle, c'est que finalement moi j'ai rajouté avant de rentrer dans l'exposition, finalement je me suis d'abord adaptée, mais j'ai aussi changé quelques éléments, dont par exemple ce mur que j'ai posé par-dessus le mur existant, donc par-dessus la simèze, en laissant des bords. Donc on voit que le lieu est fait de ces trois pans de mur et que le mien vient s'ajouter. C'est une opération qui vient finalement en plus, donc qui fait un mur sur le mur sur le mur, mais qui est apparent. Et j'ai laissé tous les joints, mais aussi le dessin des joints. J'ai beaucoup plus dessiné que jointé, en fait. Donc il y a une partie qui est vraiment fonctionnelle. Donc j'ai mis cinq panneaux qui sont cinq panneaux de placo standard au sol, qui partent du sol, qui vont monter avec un rajout aussi de... Donc il y a 250... on voit nos mesures aussi derrière les objets, finalement. Donc la plaque est standard, c'est des plaques de placo standard de 2,50 m. D'autres que j'ai apportées ne sont pas standards, c'est pour ça que celles-ci, elles le sont. Donc 2,50 m plus à peu près un tiers qui vient en débord et qui vient se surélever comme une tête au-dessus des épaules. Hein. Comme le buste, ça sert finalement de corps, ça dessine presque un corps avec des bras qui viennent se tenir les uns les autres comme une guirlande d'hommes, comme une guirlande de papier, comme ça, quand on découpait les petits personnages dans du papier et qu'on les étirait pour en faire plusieurs à la fois.
Est-ce que c'est une sculpture à part entière ?
Oui. Oui, et elle va avec plusieurs éléments. Disons que ce mur, là, tel qu'il est, donc avec les joints qui se poursuivent et qui se touchent comme des grands géants se tiendraient les épaules, donc ça va aussi vers le haut, c'est une sorte de... C'est des croix, enfin, au départ, c'est les joints qui permettent l'assemblage des plaques et de dissimuler aussi, d'en faire un pan de mur, donc les, tu vois comment c'est, hein, normalement les plaques elles sont un petit peu incurvées, ce qui fait quand on les rapproche et qu'on les met côte à côte, ensuite on met une grande bande de joint et de l'enduit pour mettre à niveau et à fleur et avoir un mur parfait. Donc je me suis servi de ça et pour que le dessin se voit encore. Et ça va avec la première, il y a plusieurs versions, mais c'est des versions très différentes. C'est des versions au sens, c'est pas le même. Ça y ressemble, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire que la première version, elle servait, donc ce mur découpé et cette sensation qu'on a aussi, un déploiement de la même forme dans l'espace de manière linéaire. Je vais te montrer ça. Il servait, je l'ai fabriqué vraiment pour être le support d'une pièce qui est plus architecturale peut-être, oui, qui n'a pas comme celle-là les images associées, et qui est une poutre faite elle-même de plusieurs parties et qui supporte trois petits moulages de chiens qui viennent en hauteur comme s'ils dominaient une porte ou un fronton. Donc,
alors, je vais décrire un peu ce qu'on voit devant nous à l'instant. Alors, Caro, tu viens de me sortir des feuilles A3 avec plein de photos dessus. Donc, c'est une sorte de planche de d'œuvres qui sont intérieures à cette expo.
Exactement. Mmh. C'est l'ensemble des pièces qui vont être montrées pendant ces 9 jours et qui vont être en rotation. Donc, certaines sont vraiment visibles dans l'espace d'exposition, là. En bas, et la mezzanine et ce papier sont une mise à plat de toutes les pièces qui seront physiquement présentes. Donc sur la mezzanine, elle sert en même temps de stockage, elles sont là toutes ensemble,
partiellement montés, donc on peut en voir des morceaux plus ou moins grands. Souvent d'ailleurs mes pièces sont faites en morceaux, donc en kit, ce qui fait que je les assemble et des choses qui sont très très grandes se retrouvent en petits éléments éparses.
Et donc il y a aussi des photos.
Oui.
Alors, à l'instant, donc, on a parlé de cette simèse sculpture qui est le support de plusieurs pièces, enfin, qui est une pièce en soi, mais qui se transforme. Et là, aujourd'hui, je la vois avec, enfin, nous la voyons avec trois photos posées à hauteur des yeux, alignées. Et la première chose qui saute à l'œil, c'est ce chien qui va à notre rencontre. Dans un lieu qui est peut-être ton atelier.
Déplacé, oui.
Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ces trois photos ?
La photo, en général, elle est finalement un élément sculptural aussi. Elle est rarement montrée toute seule. Elle a souvent une fonction. Elle est souvent incluse d'ailleurs dans un dispositif, comme là, ce que tu décrivais tout à l'heure, ce petit volume qui accueille le diaporama, qui est fabriqué pour l'image. Là, le mur, donc dans cette version-là, accueille donc ces trois photos, et les trois sont des plans, des pièces en cours dans l'atelier. Donc elles ont valeur en même temps d'archives, elles datent, c'est-à-dire qu'elles montrent un moment de ce qu'on a là sous les yeux, qui est à un état intermédiaire, et qui permettent en même temps de voir finalement la forme passée jusqu'à ce qu'elle soit recouverte. Donc le mur va être recouvert et peint en blanc dans une deuxième phase. On aperçoit d'ailleurs, c'est pas un hasard non plus, je pense, parce que dans l'atelier, elles sont souvent, les pièces sont comme dans un paysage d'abord pour moi. Elles sont dans l'atelier posées et elles peuvent y rester. Certaines peuvent rester là pendant des années, un peu comme un arbre qui va pousser tant que j'ai encore quelque chose à faire, tant que je n'ai pas trouvé comment les montrer vraiment, ou une affaire de socle ou de matériaux. Et donc des petites choses voisines avec des très grandes. Et des liens se font aussi entre les choses, puisque comme étant à côté, souvent elles viennent se rencontrer. Voilà, donc, et fabriquer des liens, plus ou moins conscients d'ailleurs. Et cette série de photos montre le A qu'on retrouve là, fini dans l'espace. À l'inverse du mur, le mur c'est du rajout d'enduit qui vient combler le vide. Pour le A est gravé, sculpté, comme une sculpture dans le bois, avec un ciseau à bois pendant pas mal de temps. Et donc ça évite la matière, elle est en creux, elle est gravée.
On va se rapprocher pour regarder.
Alors de loin, on voit un dessin blanc à la craie presque, alors que de près on voit
c'est creusé.
On voit l'épaisseur, oui.
Ouais. Tu as enlevé la matière pour faire apparaître du blanc en dessous du placo qui est gris. Hein.
Exactement. Donc là, on voit le plâtre du placo. Ouais. Sous la feuille de papier qui est un drôle d'ailleurs de placo. Pourtant, c'est une plaque standard, mais elle a un beau velouté. On ne sait pas trop quelle matière c'est. Ça ressemble presque à de la suédine. Et ce que tu évoques là, c'est la poutre. C'est en fait un tréteau. C'est le tréteau de mon atelier. Et il me sert en même temps. Il nous sert. Tu vois là, je l'ai mis dans deux fonctions. On peut en même temps s'asseoir dessus. Donc à deux, c'est presque un petit banc. C'est là-dessus que je m'assieds pour regarder justement ce qui se passe quand je travaille. Et en même temps, il m'a servi comme d'autres objets. Là, en l'occurrence, donc c'est un tréteau. Et le côté du tréteau fait un A. Et c'est la matrice. C'est comme un pochoir sculptural pour fabriquer un A très bien fait d'ailleurs.
Oui, je vais m'asseoir sur ce tréteau qui est très ancien, qui c'est pas un tréteau lambda, c'est assez bas.
C'est un tréteau de menuisier. Ah. J'habite dans une ancienne menuiserie et une grand espace qui est très comblé avec très comble avec toutes mes sculptures partout, du sol au plafond. Voilà. Mais ça reste encore un grand espace et de temps en temps j'arrive à dégager un bout comme ça. Pour voir les choses avec des différents niveaux, différents plans. Et comme j'observe beaucoup, ça c'est quelque chose que je tiens. Tu posais la question là pour le chien, pour l'animal, c'est par là, je crois que tout a commencé aussi. Et entre la photo et l'objet, il y a des relations, mais elles viennent surtout d'abord de l'observation. Donc j'avais beaucoup d'animaux, des animaux très... C'est pas moi qui les avais, c'est mes parents. Et j'ai grandi avec eux. Mes parents étaient des fous d'animaux. Ils les recueillaient, ceux qui étaient, voués à l'abattoir, ceux qui étaient malades. On allait aussi en adopter. Et mon père était radiologue et ma mère gastro-entérologue. Mais ils adoraient les animaux. Et je crois que le père de ma mère n'en voulait pas quand elle était jeune. Elle sait bien... Elle a pris sa revanche, disons. Et mon père adorait ça aussi, donc on avait un petit cheval, un cochon qui était censé être un cochon miniature et qui a fini très 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 gros, un beau Vera de 150 kilos. Disons qu'on avait arrêté de le peser quand il a fait 150 kilos parce qu'on ne pouvait plus le transporter du tout. On avait des chiens, et puis tous les oiseaux, pas de chats, parce qu'ils venaient manger, donc nos chiens les faisaient décamper. Et voilà, toutes sortes d'animaux terrestres ou pas, ou marins d'ailleurs, parce que mon frère et ma mère allaient chercher, on habitait pas loin de la mer, on habitait entre Cannes et le Canet, donc on allait souvent à la mer, et ils avaient un aquarium qui remplissait de la dernière pêche à l'épuisette, pêche avec les palmes. Et il s'escrimait à ramener des poulpes, des crabes, toutes sortes d'animaux qui périssaient très vite et qui n'aimaient pas du tout être en captivité, mais qui étaient incroyables à observer aussi. Voilà. Donc j'ai beaucoup regardé parce que j'aimais aussi les voir faire, j'aimais les voir vivre, j'aimais les voir dans leur milieu, donc dans leur environnement, avec leurs spécificités. Les chèvres qui montaient très haut, qui sautaient d'un geste comme ça, le cochon qui ne pouvait pas soulever son cou plus pour voir au-dessus, mais qui soulevait des kilos d'un seul coup de groin. Ces spécificités, tout ce qui faisait en même temps leur allure, leur façon de se déplacer, leur pieds, toutes leurs caractéristiques et la manière dont chacun vivait au milieu des autres, en fait. Donc des petits qui étaient très discrets, qui ne voulaient pas qu'on les repère, et puis d'autres qui étaient beaucoup plus imposants, qui étaient surprenants aussi.
Et pour revenir à ton travail, ce qui m'apparaît quand tu me parles d'animaux, c'est que des animaux, ils ont toutes, comme nous aussi, un autre champ de vision. Oui. Ils voient des choses différemment, d'une autre hauteur. Oui. Et on a l'impression que c'est important dans notre travail. J'ai l'impression que c'est un regard oblique. Tu cherches à créer un regard autre sur les objets de la façon dont tu les places.
Oui, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est drôle que tu le vois tout de suite parce que c'est un élément central au sens de la... Enfin, c'est la position. Je suis... D'abord, c'est vrai que je tiens ça d'eux aussi, entre un oiseau qui observe depuis un arbre et un autre qui se cache derrière un fourré ou qui nage, c'est vraiment des différences très, très notables qui dépendent aussi du milieu, mais qui font qu'effectivement, la position qu'on occupe dans l'espace, elle est vraiment centrale. Et je passe mon temps à bouger. Alors déjà, ça c'est un vrai problème. En soi, de fait, pour voir, je pose quelque chose, donc je pose une sculpture, et comme j'essaye de voir comment elle est dans l'espace, et si sa position est la meilleure, je passe mon temps, moi, à changer de position pour me reculer. Donc je pose, et puis je me recule, je fais trois pas, je regarde ce qui change, l'orientation, je déplace, et tout ça est vraiment une affaire de déplacement aussi. Mais dans le déplacement, en fait, on change beaucoup de choses. Si on déplace 10 cm d'un muret, on voit chez le voisin, par exemple. Si on se déplace et on descend d'un trottoir, on baisse de quelques centimètres, mais ça change tout. Voilà. Donc, ces petits centimètres qui sont en plus, en moins, c'est presque des opérations mathématiques aussi. Donc, c'est en même temps des corps dans l'espace qui concernent... donc, j'essaye aussi de faire participer le spectateur. Et justement, là, tu vois, par exemple... Cette forme, la forme de l'escabeau m'a servi aussi à faire ce grand A. Et là, pour le coup, c'est un A, mais avec le rajout de l'escabeau en hauteur qui sert normalement à poser des éléments, le rajout fabrique un petit prime, un signe dans la langue. Donc on a un petit A, un A de petit format d'un côté et un A majuscule de l'autre qui est beaucoup plus grand. On a deux formats qui sont induits vraiment par les objets, où c'est la taille de l'objet, comme un moule, oui, c'est la taille qui donne la lettre. Donc c'est une transposition juste sur la surface.
Alors maintenant qu'on en parle, quand je regarde maintenant les photos, évidemment, je découvre l'escabeau de la photo aussi.
Voilà. Oui, les objets qui sont là sont contenus. C'est une évolution, en fait. C'est une évolution naturelle dans le travail, parce que après avoir fait ce grand mur, finalement, et montré cette pièce que tu vas voir là plus tard, le fait même d'avoir cet entre-deux sur le devenir du mur, on va dire, d'un mur qui n'est pas encore peint et achevé, donc qui est un mur au travail, en plein travail. Je prends souvent des photos qui sont en cours des pièces de l'atelier, d'abord pour me souvenir quand je dois les remonter après, comment je les ai faites aussi, parce que quelques années après, j'en ai plus aucun souvenir. Je me dis par quoi j'ai commencé. La chronologie me manque tout le temps, donc j'essaye par les photos toujours de me souvenir. Donc la photo a une première fonction chez moi, c'est une façon d'enregistrer, de mémoriser, de servir d'archive, et en même temps de montrer quelque chose. Donc ce point de vue dont on parle, le point de vue aussi, puisque la photo est prise par celui qui la prend, elle montre l'angle de celui qui choisit aussi. Ou ça peut arriver aussi qu'il y a beaucoup de fois où c'est totalement, comment dire, j'expérimente aussi pour voir simplement, sans avoir une idée au préalable de ce que l'image va donner. Mais là, en l'occurrence, cette série, elle est presque un pas chassé, où on voit la partie gauche de l'atelier, la partie centrale et la partie à droite, mais dans des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'à gauche, le A est à peine, commence à s'esquisser. Au centre, donc Pooch, qui était mon chien, qui a daté beaucoup des pièces. Grâce à lui, je sais quelle pièce j'ai faite sur une longue période. Il est mort à 18 ans et demi. Et au centre, donc, on voit encore une étape un peu supplémentaire. Et à droite, on voit que le petit A est déjà formé et que l'escabeau sert aussi d'appui le temps que le grand A soit prêt à le remplacer finalement et à le masquer. Parce que la troisième phase, enfin la troisième sculpture qui va naître de ça, ça je te le dis parce que ça va venir dans les prochains jours, c'est que les objets vont être dissimulés derrière leur propre plaque finalement, donc comme un coffrage, comme une espèce d'étagère murale derrière laquelle ils vont se planquer, et donc on ne verra plus que les lettres mais plus les objets. Comme je prends les choses là pour cette série là, c'est des choses qui sont en cours, comme je prends des choses qui sont dans une temporalité intermédiaire où je suis en train de fabriquer. Montrer là, maintenant, c'est comme si on pouvait remonter le temps. Alors que pour d'autres fois, la photo va me permettre d'anticiper et de montrer ce qui va se passer. Et parfois, elle me sert aussi, souvent d'ailleurs, ça me sert pour comparer deux choses. Pour montrer un état et un autre, ou pour parler de la vision, ou des problèmes, deux problèmes que je mets côte à côte. Donc la photo est souvent en regard, oui, de quelque chose. C'est pour ça qu'elle est incluse dans un dispositif.
Mais c'est en même temps la partition de la pièce, oui, qui est en train de se faire.
Absolument. Et pour la faire, pour la voir et pour la déplacer. Donc là, vraiment, c'est là, dans l'atelier, ça a exactement cette allure-là. Et je l'ai d'ailleurs, dissimulé pour pouvoir y retravailler dans l'avenir. Je l'ai dissimulé derrière un faux mur encore, chez moi. Comme il y a des filiations, vraiment aussi, c'est ça l'histoire je pense que c'est ce qui me passionne aussi. On repère des traits communs dans les comportements ou chez les hommes et les animaux. Donc on repère des traits, des choses physiques qui font que les espèces sont plutôt d'un type ou d'un autre, mais on les repère même en les voyant, simplement sans les connaître. Et les pièces elles-mêmes, elles génèrent ça. Puisque une petite, par exemple, là, on voit le petit A et on passe au grand A. Si le petit A est ce qui est jusque-là, le A était dissimulé derrière une grande sculpture encore en placoplate, mais faite de trois pans cette fois, qui intégrait cette forme-là, et cette forme, en fait, on a l'impression d'un aérodynamisme ou d'une forme abstraite un peu constructiviste, mais quand on voit l'image d'origine, on voit d'où est issue cette forme. Et en fait, c'est un avion. C'est un avion qui est coupé. La prise de vue, c'est un avion qui passe et que j'ai photographié au moment où il passait. Donc, on voit le nez est mangé et il ne reste que la queue de l'avion.
Merci beaucoup, Caro. C'était super.
Merci.
Grammaire. On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée. Fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.